à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette conférence organisée par le CEIM dans le cadre de l'axe gouvernance globale de l'environnement et de l'énergie qui s'intéresse aux questions de régulation du climat et de lutte contre les réchauffements climatiques et bien sûr de processus de négociation internationale en vue d'élaborer un futur régime climatique. La question climatique a acquis une importance structurante ces dernières années. Elle est porteuse de transformations économiques, politiques, sociales, sociétales, puisqu'on parle comme ça maintenant. Et pour nous parler de certains de ces enjeux et de certaines de ces mutations, nous accueillons Mathieu Patterson, professeur à l'Université d'Ottawa. Il y a de nombreuses publications, de nombreux travaux sur la question, et question sur laquelle il travaille depuis quelques années, une bonne vingtaine d'années, sur la question de gouvernance du climat, local, national et mondial, et depuis quelques temps sur les marchés carbone et le développement des marchés carbone, puisque l'enjeu de la lutte contre les changements climatiques, c'est bien sûr un avenir faible en carbone, une économie à faible teneur en carbone, bref, la décarbonisation du capitalisme, du mode de production capitaliste. Et il est actuellement auteur pour le GIEC, qui devrait livrer son rapport en 2014. C'est donc à la fois l'universitaire, le chercheur et le praticien que nous accueillons, et auquel je passe sans plus tarder la parole. Mathieu.
Merci. Merci d'être venu, merci de m'avoir invité. En préparant la conférence, j'étais un peu aussi avec l'auditoire que je vois devant moi, qu'il y a probablement une variété de connaissances déjà au côté changement climatique, mais aussi au côté économie politique. Donc j'espère de juger bien et ne pas faire des choses un peu trop simple pour certains ou trop complexe pour les autres. Donc, c'est un jugement. Donc, aujourd'hui, je vais parler en général de la question de comment, si on commence avec le constat si simple qu'on vit dans un monde capitaliste, avec tout de ce que ça implique, qu'est-ce que ça implique par rapport aux réponses au changement climatique, du côté théorique et pratique. Et donc dans le titre, nous avons ce que je crois que l'essentiel de ça, c'est qu'on vit dans une forme particulière du capitalisme qu'on appelle normalement le néolibéralisme, qui c'est le point de départ. Si on vise une transformation du capitalisme, c'est de là où on commence, et ça implique un certain contexte qui doit être pris en compte. Et à la fin du titre, je dirais que la forme que le capitalisme a, la forme de réponse que le capitalisme a produit jusqu'à maintenant produit un certain nombre de dilemmes assez importants que je vais essayer d'élaborer et en parler un peu. Ça, c'est l'essentiel. Au début, juste pour commencer, de faire quelques constatations très pas très subtil, je dirais, sur l'essentiel la nature essentielle du défi. Ça, c'est le bâton d'Oki qui est très connu dans les débats, aussi très contesté, mais en fait, chez les chercheurs, en fait, après les contestations de la version originelle, je me demande s'il y a... Ah oui, est-ce que ça marche? Ah oui. De la version de Michael Mann et elle, en 1990, il y a toute une série de chercheurs qui ont essayer de reconstruire le climat dans le passé avec des variations, mais en fait le même constat, qu'on a eu un déclin très très léger dans la température moyenne du monde, puis une énorme hausse de croissance depuis à peu près 1800. Deuxième élément là, c'est que depuis la même ère, donc 1800, on a une croissance énorme des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'analyse très complexe ici, mais dans ça, on voit cette partie ici, il y a une sorte de au moins dans la version très prima facie, il y a une corrélation assez évidente. Et donc l'enjeu, ça devient la consommation de pétrole, charbon, gaz naturel. Et troisième élément comme point de départ pour la nature du défi, ici on parle juste des émissions depuis 1990, juste avec les projections pour les scénarios pour le futur. La ligne grise ici, c'est ce qu'on appelle le business as usual, ce qui c'est en effet le continu de cette ligne noire comme ici. La ligne rouge, c'est si les engagements que les États ont faits jusqu'à maintenant, on les atteint, les émissions vont être à peu près ici. Avec le petit dans l'eau gris ici, c'est un certain nombre d'engagements qui ont été promis mais pas garantis jusqu'à maintenant. Et voilà où on devrait aller pour essayer de réduire les émissions assez pour avoir une chance. La ligne gras en solide en noir, c'est si pour avoir une chance assez pas certain et avoir une chance d'éviter une hausse de température de moins de 2 degrés centigrades, qui était, si on compare avec ici, on a eu une croissance d'à peu près 0,8 degrés centigrades déjà depuis la révolution industrielle. Donc ça veut dire que et on est ici avec les changements climatiques on a subi déjà, ou ça va de 2 degrés, c'est à peu près bon, c'est en dessous du plafond. Et l'autre, ça c'est si on veut avoir une chance d'éviter une hausse de 1,5 degrés. Deux variations de chiffres qui sont considérées comme si on va au-delà de ces seuils, on va avoir des possibilités d'un réchauffement qu'on ne peut plus contrôler. OK. Donc, la défi semble, d'une certaine manière, assez évident que la défi, c'est la décarbonisation de l'économie. Comment réorganiser l'économie pour qu'il ne soit pas organisé autour de charbon, pétrole, gaz naturel. Ou au moins que si on les utilise, les émissions de gaz à effet de serre sont absorbées directement avec le carbon capture and storage, qu'on appelle CCS. Mais en termes de diagnostic, dans le débat dominant, on a tendance à parler de la décarbonisation comme un défi technologique, surtout. Surtout en Amérique du Nord, où on s'obsède de toutes les pratiques quotidiennes qui dépendent actuellement de l'usage de l'énergie fossile. Et donc, ils visent, on a une vision technocratique dans le discours dominant qui vise en effet juste de remplacer toutes les technologies qu'on utilise jusqu'à maintenant avec des technologies nucléaires, renouvelables, etc., etc. Le changement de technologie. Il y a une deuxième variation d'un discours dominant qu'on voit plus en Europe, où on est un peu plus développé dans la vision de c'est quoi la décarbonisation, qui est une vision qui vise une révolution sociotechnique qui tient compte du fait que même si on vise le changement de technologie, on change ça fonctionne à travers le changement des pratiques quotidiennes. Et ce qu'on appelle parfois la vision de si vous trouvez le mot transitions management ou quelque chose comme ça, c'est de ça dont il parle. Aux Pays-Bas, c'est là où le discours s'est très bien installé en particulier. Mais j'aimerais suggérer que c'est bien plus compliqué que juste une révolution technique. Mais c'est aussi plus compliqué que juste une révolution sociotechnique, parce qu'il s'agit la problématique, c'est que si on vise ces transformations, c'est le caractère du capitalisme qui va le permettre ou agir comme obstacle. Donc il faut retourner à quelques conceptualisations de base de c'est quoi le capitalisme. Donc, désolé pour ça. Bon, le capitalisme sans zéro, sans un. Donc, les institutions de base, c'est ce que je fais une survol extrêmement bref de toute la littérature classique, beaucoup plus riche que ce que je présente ici, mais j'essaie de faire ressortir l'essentiel pour l'argument que je développe par la suite et qu'on développe dans le livre Climat et capitalisme avec mon collègue Peter Niro. En effet, les institutions de base sont le rapport salarial. Chez Marx, surtout, c'est ça l'essentiel du capitalisme qui le distingue des autres formes de société. Donc, en effet, la marchandisation du travail, qu'on traite le travail comme une marchandise juste comme cet ordinateur. La valeur d'un marché qui se peut échanger pour des autres marchandises aussi. Et deuxièmement, que la forme de distribution des biens et des dégâts, c'est à travers le marché. Que les compagnies ou les organisations qui produisent ou organisent la production se confrontent devant le marché. Et ces deux institutions de base, selon la vision de l'économie politique, produisent un certain nombre de dynamiques centrales au capitalisme. D'abord, une dynamique d'innovation sociotechnique extraordinaire, d'où vient la croissance. En effet, d'où vient cette dynamique. En effet, que l'utilisation de toute l'énergie est dans des industries, dans tout ce qu'on connaît déjà. Mais la logique, du point de vue économique politique, c'est que vu qu'on a un rapport salarial, l'employeur ou le capitaliste voit le travailleur comme un coût à être réduit. Donc, et le capitaliste peut le faire soit par le faire travailler plus fort le travailleur ou de remplacer le travailleur avec une machine. Donc on voit à l'intérieur de la logique du rapport salarial une logique d'innovation technologique. Deuxièmement, il s'agit d'une lutte de classe qui domine la politique des sociétés capitalistes. Troisièmement, que le capitalisme connaît des crises récurrentes, surtout au moins chez Marx, un problème de surproduction, les forces de production sont extrêmement productives, la dynamique d'innovation technologique produit de plus en plus de production, mais il n'y a pas de richesse pour le consommer. La distribution de richesse, c'est trop inégal pour avoir un cycle de croissance stable. Et quatrièmement, qu'il y a une logique d'accumulation, mais aussi ça devient une idéologie aussi. C'est-à-dire que les capitalistes, souvent le répandu dans le reste de la société, fonctionnent avec une vision d'une croissance illimitée, d'une abondance totale des ressources, et donc il n'y a pas de contraintes sur la. S'il y a des contraintes, on aimerait les dépasser, sûrement. Si on ajoute une dimension écologique, eh bien, je ne mets pas toutes les choses des approches écologiques là-dedans, mais juste ce qui est très pertinent pour les changements climatiques, pour considérer cette problématique. On ajoute à ça, chez les économistes écologiques, etc., l'idée de ce qu'on appelle un metabolic rift. J'essaie de le traduire, mais je ne sais pas si c'est une bonne traduction, le fossé métabolique. Et pour ça, les chercheurs suggèrent que, en fait, si on retourne encore ici, qu'à peu près, en Angleterre, ça a commencé ici, mais dans le reste de l'Europe, dans cette période ici, mais en effet, de point de vue global, dans le contexte global, c'est assez tard dans le processus, mais c'est un processus qui est installé beaucoup plus tôt, que En effet, durant ce que représente la révolution industrielle, c'est un changement de la nature dont nous, de l'énergie que nous utilisons. C'est qu'avant la révolution industrielle, on dépend des sources d'énergie renouvelable, soit qui viennent directement ou indirectement du soleil, usage du vent, de l'eau, etc., pour l'énergie, ou qui viennent des sources animales d'énergie, le corps humain, mais aussi les autres animaux, hein, comme les chevaux, etc. Et après, du point de vue écologique, la révolution industrielle représente une transformation du capitalisme dans sa métabolisme, où on commence à utiliser les sources d'énergie non renouvelables qui viennent de parfois on dit que c'est le soleil ancien. Donc on passe d'un cycle économique qui est circulaire, si on le conçoit du point de vue de l'énergie, parce que le soleil remplace, produit des sources de vent continuelles, fait en sorte que l'eau vient de la mer, en dessous des montagnes, on peut l'utiliser encore dans les ruisseaux et les fleuves, un fond une logique d'économie linéaire. On utilise l'énergie qui a été produite il y a millions d'années et on utilise, c'est fini. Donc c'est ça qu'on entend pour le metabolic rift, le fossé métabolique. Et ça pose la question, en effet, qu'on ne voit pas vraiment chez les approches très classiques à l'économie politique, est-ce que le capitalisme dépend de l'énergie fossile? Et à mon avis, du point de vue, ça c'est une question assez centrale pour répondre à la question de si le capitalisme peut répondre au changement climatique. Je vais retourner à ça à la fin. Un moyen de le démontrer, au moins du point de vue historique, ça je tire du, si vous connaissez le site web Gapminder, fait par le chercheur suédois Hans Rosling, qui fait des choses extraordinaires. On peut trouver une version animée de ça avec les chiffres qui commencent en 1850 jusqu'à maintenant, avec tous les bruits qui bougent dans le temps réel. Mais ici, on constate, même s'il y a beaucoup de variations qu'on peut faire sortir, mais en général, on peut faire une ligne de best fit assez évidente là-dedans. En fait, je fais un article en ce moment avec Eric Lachapelle, qui est à l'arrière de la salle, où on fait quelque chose un peu avec ces types de chiffres aussi. Donc, on voit qu'il y a, des autres éléments, les autres facteurs qui déterminent le niveau des émissions d'un pays ou autre. Chaque bulle représente un pays, en effet. Donc, ça, c'est la Chine, ça, c'est l'Inde, ça, c'est les États-Unis. Je pense que ça doit être le Canada. Mais en effet, c'est le revenu par personne, PIB par personne, et ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone par personne. Et on voit en gros une relation assez linéaire.
C'est en log.
Pardon?
C'est le logarithme.
C'est le logarithme, mais quand même, oui, donc, c'est les deux côtés, c'est le logarithme, je pense, c'est pour représenter plus facilement dans un seul espace. Cela dit, on voit au côté de si on prend le niveau de salaire du Canada, on voit que la variation entre un pays et un autre, ça doit être les régions, les couleurs sont indiquées ici. Ça doit être un pays comme le United Arab Emirates, semblable, un pays producteur de pétrole. Ici, je pense que ça doit être le Royaume-Uni. Donc, on voit une variation, si on voit, parce que c'est une échelle log, c'est une variation assez considérable entre des pays au même niveau, mais ça remet pas en cause, non, en effet, il y a beaucoup de variations encore à expliquer, mais quand même la relation entre PIB par personne, CO2 par personne, c'est assez facile à voir là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on essayer de commencer à penser à ce qu'on a vu par rapport aux réponses au changement climatique jusqu'à maintenant. Là, il me semble falloir nuancer un peu le capitalisme, pas ajouter juste ce que je viens de dire, mais ajouter un peu de détails. Sur, en effet, la variation du capitalisme dans le temps et l'espace. L'espace peut être dans la comparaison des différents pays, comme je viens de constater, mais je mets plus emphase pour l'instant sur le temps. Et ici, les codes de régulation, comme chez Michel Arlietta ou Robert Boyer, c'est très utile. Et là, il commence avec le constat des crises récurrentes du capitalisme que j'ai constaté et pose la question, comment est-ce qu'on fait en sorte que, pour certaines périodes de temps, on voit une sorte de stabilisation du système, ce qu'ils appellent un régime d'accumulation. Et l'exemple classique, c'est le Fordisme qui a commencé dans les années 30 jusqu'aux années 70, ou au moins la version classique et stable, où on a vu une sorte de logique de consommation de masse, production de masse, un cycle d'accumulation assez stable, organisé par l'État avec l'ingérence économique par l'État de manière keynésienne, le système de Bretton Woods au niveau international, une stratégie par les grandes compagnies comme Ford, d'où vient le terme, de payer les travailleurs plus qu'ils pourraient pu faire afin que les travailleurs aient assez d'argent pour consommer, etc. Et si on ajoute un élément de la pensée néo-gramscienne, sur le rôle des mouvements sociaux dans l'ère Fordiste, il s'agit des syndicats, on va voir pour l'instant à l'heure actuelle, et la relation dynamique et politique entre les stratégies des syndicats ou mouvements sociaux et la réponse des capitalistes. Donc, du point de vue politique, dans le Fordisme, on voit en effet un élément assez important dans la stabilité de ce régime, c'était que la capacité du capital et des États de coopter, en effet, de répondre aux revendications des syndicats et les intégrer dans le régime d'accumulation. Donc, de ce constat, je tire la proposition que le défi, en effet, est qu'on assiste à une version embryonnaire de ça, de la recherche par le capital d'un régime d'accumulation qui est basé sur la décarbonisation. On peut que dire embryonnaire, on peut dire plus que ça, mais en effet, la logique du capitalisme de décarbonisation, c'est qu'il faut viser quelque chose comme ça. Parce que sinon, si ce n'est pas stable, ça va se défaire très facilement. Donc, c'est le défi refait. Mais l'autre constat du point de vue de l'école de régulation, c'est que on ne vit pas dans un monde fordiste classique, on vit dans un monde ce qu'on appelle normalement le néolibéralisme, qui a certains autres types de caractères structurels et idéologiques. Et dans notre livre, où je tire ces éléments, nous faisons l'emphase sur quatre éléments du néolibéralisme, il y a des autres aussi. Mais le fétichisme du marché comme institution dans la société, la dominance de la finance comme secteur économique, la croissance des inégalités à l'échelle internationale et aussi à l'intérieur des sociétés, mais c'est le contexte international qui est le plus important pour le changement climatique, et le développement de ce qu'on appelle, après Manuel Castells, la société en réseau. Et je pense qu'on peut voir dans les réponses au changement climatique, la trace de ces éléments du néolibéralisme. Ça, c'est assez évident. Donc, désolé, je n'ai pas traduit cette figure que j'ai faite dans un autre contexte, mais on peut voir que la fétichisme des marchés donne la rationale idéologie pour les marchés du carbone qui devient de plus en plus répandu dans le monde, en dépit de la crise financière et des autres problèmes avec l'abondance des changements climatiques. Donc on voit l'émergence d'un bon nombre de marchés de carbone, le système européen qui est le plus connu, le plus grand, le plus connu, le mécanisme de développement propre et la mise en œuvre conjointe, qui sont deux institutions à l'intérieur du protocole de Kyoto, que même en dépit du fait que les cibles sous le protocole de Kyoto n'existent plus, ces institutions existent encore. Marché, ce qu'on appelle le marché de carbone volontaire, si vous faites des projets de compensation de carbone pour votre vol d'avion, etc., c'est ça. Le Chicago Climate Exchange qui n'existe plus, et tout un autre marché en Australie qui va commencer en 18 mois, marché en Corée du Sud qui va commencer en 2014-15, le marché au Québec qui vient de commencer en janvier cette année, aussi en Californie, etc., etc. Du côté idéologique, on voit la trace du fétichisme du marché, en effet, c'est facile. Mais c'est aussi un effet, en partie, de la dominance de la finance. Si on pose la question qui bénéficie des marchés de carbone, c'est surtout Barclays Capital, Merrill Lynch, etc., qui s'y impliquent énormément et qui en tirent des profits. Et l'appui, je dirais, implicite, ils n'ont pas fait beaucoup de lobbying pour l'installation de ces systèmes de réglementation, mais en fait, leur appui implicite était important pour beaucoup des fonctionnaires de l'État et politiciens. Et on voit après l'installation de ces marchés, on voit toute une série de stratégies d'affaires pour en tirer un profit, développement des produits dérivés, etc., à l'intérieur de ces marchés. Troisième élément, si on voit beaucoup des éléments, des formes des marchés de carbone, surtout le mécanisme de développement propre, le marché de compensation volontaire, des nouveaux projets comme les projets intégrés dans les marchés de carbone, les projets sur le déboisement, etc., ce qu'on appelle avec le sigle RED, Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation, c'est ce que ça signifie. Beaucoup de la logique de ces ententes dépend du caractère des inégalités internationales. En effet, pour faire en sorte que les pays industrialisés compensent les pays en voie de développement pour investissent dans des projets en pays en voie de développement pour réduire les émissions là-bas au lieu de les réduire en Europe ou en Amérique du Nord. On voit aussi la trace de dominance de la finance dans le développement de bon nombre de projets de gouvernance privatisée du changement climatique. Le plus grand et peut-être le plus connu aussi, c'est le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est un gros projet des investisseurs institutionnels, tous les fonds de pension, assurance de vie, etc., pour essayer, et ça fonctionne à travers un sondage qu'ils envoient à toutes les grandes compagnies du monde, le Fortune 500, etc., S&P 5000, etc. Et ils leur demandent, c'est quoi vos émissions de gaz à effet de serre, quelles sont vos stratégies de les réduire, quelles sont vos vulnérabilités au changement climatique, etc. Et c'est visé pour produire de l'information utile pour les investisseurs qui peut-être de plus en plus commencent à penser comme si tu investis beaucoup dans une compagnie très intense dans des émissions de gaz à effet de serre, c'est un risque pour votre investissement. Et puis on voit le trust de la société en Brésil dans la forme organisation de gouvernance qui devient de plus en plus réseautique. Y compris par exemple l'exemple du CDP, c'est un exemple de celui-là, mais aussi sur les stratégies des ONG, etc. Ça de côté pour l'instant, en raison du temps. Je ne vais pas décortiquer du tout ce diapositive, mais c'est juste une esquisse que j'ai fait pour essayer de élaborer tous les processus et tous les acteurs impliqués. C'est juste le marché de volontaire du carbone. Donc, si vous achetez un produit compensation pour votre vol d'avion, tous les acteurs vont être impliqués. Donc, il y a un bon nombre d'acteurs qui tirent un profit du développement de ce type de marché. Je vais laisser ça de côté pour l'instant, mais si quelqu'un s'y obsède, on peut en parler. Le problème, c'est que beaucoup, c'est que le développement de cette marchandisation du climat est extrêmement problématique. Donc la trace du néolibéralisme et son effet, ses effets sur la gouvernance des changements climatiques a produit une série de problèmes, une série de dégâts, et aussi et la question fondamentale, est-ce qu'ils peuvent en fait aider avec une décarbonisation, une question massive. Donc une série de dilemmes et critiques politiques. J'en mentionne 5. D'abord, ce qu'on appelle la fraude climatique. En effet, que si on fait de compensation de carbone, on ne réduit pas le carbone en pratique parce qu'il y a trop de problèmes dans les mesures des émissions d'un projet, par exemple. Surtout, en effet, un projet de compensation de carbone dépend du calcul d'une contrefactuelle. C'est-à-dire que tu dois, si tu investis dans un projet éolien et tu dis oh, ça va remplacer une centrale thermique, tu vas devoir mesurer toutes les émissions qui auraient eu lieu si ton projet n'a pas lieu. Et puis comparer la différence entre les émissions. Mais c'est assez évident de dire que c'est un calcul extrêmement difficile. Juste du point de vue technique, mais aussi un problème de conflit d'intérêt. C'est une incitative extraordinaire d'inflater le baseline, de dire que oh, les émissions auraient été extraordinaires si on ne faisait pas ce projet. Donc, parce que tu produis beaucoup de crédits que tu peux vendre par la suite. Donc, il y a un problème de fraude climatique. Problème de colonialisme du carbone. Ça, c'est une bande dessinée. Qui a été fait en fait même loin avant la marchandisation du climat, mais je pense en 1991, au début des négociations, mais en effet qui exprime la logique. En effet, que de ce qu'on voit, c'est que les pays riches et les pays industrialisés qui polluent le plus essaient de se déresponsabiliser et responsabiliser les pays en voie de développement qui ne polluent pas beaucoup, mais qui ont moins de pouvoir dans le système, donc on voit une sorte de colonialisme. Troisième forme de critique, qu'en effet c'est une forme de nouvelle indulgence. On fait pas beaucoup pour le climat, mais on fait beaucoup pour notre sens de culpabilité, soit au niveau individuel ou des compagnies privées, etc. Ça, c'est une bande dessinée dans le New York Times, je pense en 2007-2008. Et la logique, on l'appelle la logique des indulgences parce qu'il y a en fait une analyse que quelqu'un avait fait qui dit qu'en fait, le marché de compensation de carbone est extrêmement semblable au marché des indulgences dans le Moyen-Âge, dans l'Église catholique. En effet, la logique là, c'est que les moines et les prêtres avaient trop de vertus. Il n'y avait pas besoin de toutes les vertus pour aller en ciel après la mort. Mais il y a beaucoup de riches qui ont fait des choses très néfastes dans leur vie. Puis, mais on peut leur permettre d'aller en ciel après leur mort pour le surplus de vertus, pour avoir une partie du surplus de vertus du moins. Sans valeur. En fait, on paye pour, si tu prends un avion et tu payes pour la compensation de carbone, en fait, tu payes quelqu'un d'être vertueux. D'avoir des vertus écologiques parce que tu ne l'as pas. Si c'est une question de vertu ou non. Mais bon. Quatrième dégât ou critique qui s'est développé durant la crise financière, surtout par Friends of the Earth aux États-Unis. Ils avaient développé le terme subprime carbon. Et là, ils avaient voulu dire que tous les produits dérivés à l'intérieur des marchés de carbone avait une sorte de problème de risque un peu comme le marché des hypothèques extrêmement complexes, titrisées de manière extrêmement complexe et tout ça. Donc il y a un risque, c'est un peu spéculatif de crash par la suite. Et cinquièmement, le critique le plus fondamental en effet, c'est la critique à la marchandisation. De la marchandisation lui-même. C'est-à-dire que de prendre le climat, qui est un bien public, qui appartient à tout le monde, et le transformer en propriété privée, qui est vendable dans le marché. Il y a une critique assez fondamentale de ce type de la déontologie de ça. Ce sont des affiches, une manifestation lors le sommet de Copenhague en 2009. Donc, avec tout ça, il y a, surtout chez les gens comme Larry Lohman ou Carbon Trade Watch, on voit une critique assez fondamentale des marchés de carbone qui, en effet, disent que ce n'est pas possible de produire une décarbonisation à travers ce type de pratique. L'argument dépend, à mon sens, si on retourne à la question de comment concevoir le capitalisme, que je fais tantôt, d'une très forte confiance de savoir l'essence du capitalisme et qu'il a un caractère très fixe. Versus une vision de capitalisme pour qui l'essence, s'il en a, est sa flexibilité. C'est-à-dire que si tu pourrais commencer avec Marx, avec son... avec l'élément, la phrase « ceux qui avaient l'air solide s'en vont en fumée », on a un sens de ce qui est l'essence du capitalisme, c'est le changement continuel. Donc la question devient, est-ce que c'est assez flexible pour se décarboniser? La critique dépend aussi d'une ontologie qui risque, à mon avis, de réifier le marché comme quelque chose de singulier. Que les marchés ont peut-être un caractère beaucoup plus fluide et en effet, sont des construits sociaux au lieu de juste être, bon, voilà, le marché, il a ses caractéristiques. Et aussi, sur le plan politique, ils ont un refus, à mon avis, des dilemmes. Qui pour moi sont au cœur du défi de la décarbonisation. En effet, la vision de Lohman et Carbon Trade Watch, c'est-à-dire que non, on refuse, on a une opposition totale, la stratégie c'est la révolution sociale, rien de moins suffirait. Qui est peut-être vrai, mais à mon sens, je ne sais pas si on, avec la première réaction à ce type de critique, moi, je suis nerveux de dire qu'on sait absolument que le capitalisme ne peut pas changer. Cela n'est pas pour dire que tous ces dégâts n'existent pas, mais c'est une chose de constater qu'ils existent, et une autre chose de dire qu'ils ne peuvent pas être surmontés. Donc, si on met l'accent plutôt sur le dilemme politique, moi, je commence à dire, et donc, comment traiter les marchés de carbone de manière politique. Je commence avec les intérêts du pouvoir du bloc carbonisé, le Global Climate Coalition, qui était un groupe de grandes compagnies pollueurs qui avait fait beaucoup d'emphase durant les années 90 pour empêcher le développement des négociations internationales, etc. Donc le défi de politique devient comment cementer ce bloc carbonisation. Et dans ce contexte, la possibilité est, à mon avis, que les marchés de carbone ont aidé à surmonter ce bloc carbonisé. Je fais juste une deuxième en résumé de temps. Donc, si on le voit de côté Gramscien, où on vise un bloc. La stabilité politique et économique dépend un peu de la construction d'un bloc hégémonique des acteurs. En effet, on avait un bloc hégémonique autour des intérêts de l'énergie fossile. Il faut créer un autre type de bloc hégémonique qui ne dépend pas de leur appui. Et vu que les changements climatiques sont en effet un problème transformationnel, ils ne sont pas un problème incremental, en fait. Une petite chose à la fois. Et beaucoup des vested interests, la traduction que j'ai vue, c'est les droits acquis, mais je ne sais pas si c'est correct, dans le status quo. Donc le défi, c'est de créer des droits acquis ou des vested interests dans la transformation. Et en effet, la leçon politique des marchés de carbone, c'est l'exemple du système européen, c'est qu'il a créé, à mon avis, une coalition de forces capable de surmonter les opposants des politiques publiques. Et a produit une dynamique économique de croissance pour des compagnies clés et des secteurs qui pourraient se joindre à la coalition. Donc, de manière très simple, si on pose la question de c'est quoi les intérêts de Barclays Capital dans le changement climatique, ils vont dire peu importe. Si tu poses la question avec la marchandisation du carbone, ils se sont joints à une sorte de coalition en faveur des politiques. Historiquement, en Europe, c'était par accident, c'était pas par design. Personne n'a essayé de construire cette coalition, il y avait une sorte de caractère d'émergence. Mais juste de manière crue, en 1995, on voit ces types de coalitions. Maintenant, les coalitions, je ne fais pas les détails, mais maintenant, l'équilibre des forces politiques, en effet, c'est beaucoup plus en faveur du développement des changements politiques, du changement climatique. Plus en Europe qu'ici, mais quand même. En fait, plus en Chine qu'ici aussi, plus en Inde qu'ici. Mais le dilemme, c'est évident, c'est qu'en fait, la version crue qu'on dit, c'est que Merrill Lynch va nous essayer de sauver la planète, qui est un peu bizarre, contradictoire, au moins. Et encore les possibilités de dégâts considérables, sans garantie de succès. Mais je pense qu'on vit dans un monde où on n'a pas de garantie de succès. Je vais pas voir la deuxième, juste en vrai. Je vais essayer d'arrêter en 5 minutes. Mais pour penser la possibilité d'une transformation, ce qui me semble utile, c'est de considérer d'abord que de retourner à la question de la construction sociale des marchés. Donc, si on voit le marché de compensation, par exemple, deux éléments là. Dans le mécanisme de développement propre, qui est le marché de compensation principal dans le protocole de Kyoto, qui a été négocié en 1997 et puis les détails un peu plus par la suite. Un grand succès pour les mouvements sociaux était d'éliminer les forêts, les projets de déboisement dans ce marché. D'abord, les Américains, le gouvernement canadien ont voulu avoir accès à tous les forêts pour faire des projets de compensation. Mais les mouvements sociaux, appuyés en fin de compte par le gouvernement européen, ont pu faire en sorte que c'est extrêmement difficile de faire un projet dans le secteur des déforestation. Et donc le caractère de ce qui est possible à l'intérieur de ce marché a été construit à travers par les mouvements sociaux, par la dynamique politique entre les acteurs. Ce n'est pas juste qu'il y a un marché abstrait qui s'est installé. Le deuxième élément, c'est que si tu fais... Si tu étais très à l'avance des choses et tu avais fait compenser les émissions d'un vol avion en 2005, la fiabilité de ce projet était juste sur la crédibilité de la compagnie qui le faisait. Tu l'aurais fait avec... Future Forests ou une compagnie comme ça. Mais il n'y avait aucune certification, il n'y avait aucune norme pour dire est-ce que c'est un projet crédible, est-ce que c'est un projet pas crédible du tout, est-ce que c'est juste un. Est-ce qu'on on parlait à l'époque du marché des cowboys en effet. Maintenant, depuis cette ère, il y a une vingtaine d'organismes qui ont développé des systèmes de gouvernance de certification pour établir si c'est un bon projet ou non. Si on entend les noms du Gold Standard ou du Climate Change and Biodiversity Alliance certification, des autres aussi, c'est un exemple de ce type de pratique. Et maintenant, 95% des projets de compensation subissent une de ces évaluations et certifications par une troisième partie, par une compagnie du comptable, etc. Donc, il me semble difficile à dire qu'il n'y a pas eu une amélioration de la qualité de ces projets. Donc le marché, le caractère des projets faits dans le marché et des produits construits s'est fait à partir des pratiques de gouvernance développées en partie par les ONG environnementales, aussi par les gens d'affaires dans un contexte. Donc c'est possible d'imaginer des autres exemples dans le caractère de la décarbonisation se fait non seulement avec une logique universelle des marchés chez les économistes, mais une reconstruction des marchés à partir d'un conflit politique autour de leur caractère. Le deuxième moyen de penser une transformation à partir des bases, de points de départ assez problématiques, comme on a vu, c'est de le voir comme un problème de complexité. Selon la théorie des problèmes de complexité. Et là, dans leur terme, on vise une série de tipping points pour établir une nouvelle dynamique systémique. Mais la logique aussi, si on conçoit de ce point de vue, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va marcher ou ne pas marcher. Parce que le système, c'est trop complexe pour savoir qui sont les éléments clés auxquels on doit faire la réglementation pour assurer le succès. Et il n'y a aucun endroit clé, les Nations Unies ou le gouvernement central, etc., qui peut absolument intervenir pour assurer la transformation. Il s'agit de l'interaction de plusieurs systèmes de gouvernance, plusieurs moments où on ingère, où on fait où on développe un système de gouvernance. Donc, par exemple, juste pour terminer, un exemple très simple, aussi, je n'ai pas traduit. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Il y a des éléments là qui existent tous. On a des systèmes de droits d'échange d'émissions, on a un système de développement des cibles par les États dans les négociations intergouvernementales, on a le mécanisme de développement propre, on a les systèmes de certification dans le marché de compensation et on a le Carbon Disclosure Project que j'ai mentionné. Donc voilà des processus un peu plus potentiels. Donc on établit une cible, on essaie d'atteindre la cible à travers un système de droits d'échange d'émissions. Ce système crée un prix sur le carbone. Si la cible c'est plus fort, le prix va être plus élevé. Assez évident, assez simple. Mais en même temps, on a le Carbon Disclosure Project qui fait en sorte que les investisseurs savent beaucoup plus qu'auparavant par rapport aux vulnérabilités des compagnies dans lesquelles ils investissent à quelque chose comme le prix sur le carbone. Donc, si le prix sur le carbone augmente, l'importance de ce type d'information donnée aux investisseurs va aider les investisseurs à faire des décisions d'investissement. Donc on peut imaginer une interaction. C'est pas juste que le prix sur le carbone va produire une nouvelle forme d'investissement dans l'énergie renouvelable, par exemple, ou idéalement. C'est la combinaison de deux éléments de gouvernance. Et si les États voient qu'on a beaucoup d'investissements dans l'énergie photovoltaïque, renouvelable, etc., ça leur permet d'établir des cibles plus contraignants, plus ambitieux. Donc il y a une sorte de... C'est pas installé, ce type de dynamique, mais on peut l'imaginer. Mais qui ne dépend pas... Il n'y a pas un moment où on peut intervenir. Il faut imaginer l'ensemble, en effet, la dynamique. En même temps, à l'échelle internationale, il y a une forte interaction entre les systèmes de droits d'échange d'émissions, surtout le système européen, qui est le plus grand, facilement le plus grand au monde, et le système de Kyoto, le mécanisme de développement propre. En effet, la demande pour les investissements, 90% de la demande pour les investissements dans le mécanisme de développement propre provient des compagnies réglementées sur le système européen, qui peuvent investir dans des fermes en voie de développement, se faire compenser sur leurs obligations dans le système européen. Mais à travers l'histoire, on voit en effet que ce mécanisme, si on voit le développement des politiques en Inde et en Chine surtout, ils sont devenus beaucoup plus habitués, beaucoup plus flexibles dans les négociations. Un peu en raison du fait qu'ils ont profité énormément de ce mécanisme. Donc, il y a une sorte de. Ça amène les pays en voie de développement, surtout les grands pays comme la Chine ou en Inde, qui, du point de vue de la décarbonisation de l'économie mondiale, sont assez importants, qui aident à leur amène. On voit maintenant que même l'Inde et la Chine commencent à parler des cibles de contraindre leur propre mission. Je laisse comme ça. Donc, pour moi, d'imaginer la possible décarbonisation à partir des marchés de carbone, ce n'est pas juste de comprendre ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'imaginer le potentiel. Même s'il y a encore des dégâts, des problèmes qui ne vont pas disparaître tout de suite. Et voilà. Donc, j'espère avoir donné assez pour les questions au moins, un sens de. C'est quoi pour moi la décarbonisation de l'économie. Voilà.
Merci.